Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude. Qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre. Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Bonjour, merci de vous joindre à moi. Nous avons entamé une série d'études de l'Épître aux Philippiens. Nous en sommes encore au chapitre 1. L'apôtre Paul dit des choses extraordinaires. Il est dans une prison romaine, mais il dit que cela a contribué au progrès de l'Évangile. Toute la garde prétorienne a entendu parler de Jésus, et des gens qui auparavant avaient peur ont trouvé le courage de prêcher l'Évangile. Il dit ensuite des choses qui pourraient nous faire penser que Paul est un homme vraiment présomptueux. Mais, cher ami, l'apôtre Paul était un homme de foi. Et il comprenait certaines choses que nous devons comprendre. Il écrit aux croyants de Philippe, et il dit au verset 19, « Car je sais que cela aboutira à mon salut. » D'autres traductions disent « Cela va aboutir à ma libération ou à ma liberté, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Ce n'est pas tout. Au verset 20, il dit « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Paul dit « Vous priez pour moi » et il s'agissait d'une prière spécifique pour sa libération. Comme je l'ai déjà expliqué, ce n'était pas une prière générale du type « Seigneur, bénis l'apôtre Paul, sois avec lui en prison ». Ce n'était pas du tout cela. C'est un type de prière spécifique qui est offerte pour un besoin spécifique. Paul a dit « conformément à ma ferme attente ». Ce mot signifie littéralement « lever la tête et regarder attentivement l'horizon » pour voir quelque chose qui arrive. Paul attend la délivrance lorsqu'il dit « vous priez pour cela, le Saint-Esprit a été donné ». J'ai une ferme attente, je veux glorifier Dieu par la vie ou par la mort. Si tel est le cas. Mais pour paraphraser quelque peu ces versets, il dit « Je ne suis pas encore prêt à partir. Ma course n'est pas terminée. Dieu n'en a pas encore fini avec moi. » Il a dit « Je veux aller au ciel. Je veux voir Jésus. Je veux entendre les anges chanter. Je veux voir cet endroit. Mais il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Le mot « s'en aller » est un mot grec qui signifie « lever l'ancre et mettre les voiles ». La mort n'est qu'un changement de lieu pour le chrétien. Nous levons l'ancre et nous mettons les voiles pour le ciel. Vous fermez les yeux dans la mort, vous les ouvrez au ciel. Vous ne cessez pas d'exister. Vous n'entrez pas dans un état d'inconscience sous terre. Quitter ce corps, c'est aller vivre auprès du Seigneur, dit la Bible, et Jésus est à la droite du Père dans les cieux. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller, c'est difficile pour moi de me décider. Cette formulation elle-même est insensée si vous ne comprenez pas les principes de la foi. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller, cela ne me dérangerait pas de mourir et d'être avec Jésus, j'ai du mal à choisir. Il est enchaîné. Un garde romain dans une cellule de prison romaine. Et il agit comme s'il avait le choix. Mais il a effectivement le choix. Il ne s'est jamais désigné comme le prisonnier de Rome, mais comme le prisonnier de Jésus-Christ. Il savait qui était aux commandes, et ce n'était pas Rome. Il dit ceci en Philippiens 1, 24. « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Persuadé de cela, le mot « persuadé » est le mot grec qui est à l'origine du mot « foi ». Il est également traduit par « confiance » et « croire » dans tout le Nouveau Testament. Avec cette foi, cette confiance en Dieu, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Paul leur dit littéralement, « Nous nous reverrons, Rome n'est pas aux commandes. » C'est Dieu qui est aux commandes et je suis convaincu que ma course n'est pas terminée. J'ai encore des fruits à porter, nous allons nous revoir. Certaines personnes trouvent cela présomptueux. Comment peux-tu dire cela? Il suffit de prier pour que la volonté du Seigneur soit faite. Avant son arrestation, Jésus a dit « Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ». C'était une prière de dévouement et de consécration à la volonté de Dieu. Et il savait qu'elle allait le mener à la croix. Mais Jésus n'a pas fait cette prière partout et dans toutes les situations. Il ne l'a jamais faite pour une personne malade. Il n'a jamais prié pour que la volonté du Seigneur soit faite. On ne nous dit jamais de faire cette prière pour un malade. Dans l'épître de Jacques, où il nous enseigne à prier la prière de consécration à la volonté de Dieu, peu importe où cela nous mène, la prière qu'il nous enseigne à prier pour les malades est la prière de la foi. Il dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Deux types de prières différents. Paul ne prie pas pour que la volonté du Seigneur soit faite. Il dit « J'ai confiance. Je suis sûr que je vais être libéré. Je vais vous revoir. Rome n'est pas aux commandes. » Comment pouvait-il faire une telle prière? Pourquoi n'était-ce pas présomptueux de faire une telle prière? Quatre raisons. Premièrement, sa vie appartenait à Jésus. Il était entièrement dévoué au Seigneur. En Philippiens 1:1, il se désigne lui-même comme « serviteur de Jésus-Christ ». Ce terme désigne littéralement un galérien sur une galère, une personne enchaînée à une rame, qui n'avait aucune volonté propre. C'était une personne dont la volonté avait été absorbée par celle d'un autre. Lorsque vous vous consacrez entièrement à Jésus et que vous dites « Seigneur, ma vie t'appartient », où que tu veuilles m'envoyer, quoi que tu veuilles que je donne, que je dise ou que je fasse, je m'engage entièrement, je suis ton serviteur. C'est la première chose, vous devez vous consacrer entièrement au Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans la barque et l'autre sur le quai et croire efficacement en votre délivrance. Deuxièmement, il était dans la volonté de Dieu. Troisièmement, il pouvait avoir confiance parce que Dieu n'en avait pas fini avec lui. Il savait que sa course n'était pas terminée, il devait encore porter des fruits. Vous pouvez savoir cela si vous marchez en communion avec Dieu. Je suis assis ici en ce moment et je ne dis pas cela avec présomption. Je ne le dis pas avec orgueil. Mais je sais que ma course n'est pas encore terminée. J'ai encore des fruits à porter, j'ai encore de la route à parcourir. Je dois encore faire des choses pour le Seigneur. Paul savait que sa course n'était pas encore terminée. Quatrièmement, il pouvait dire cela parce qu'il avait la foi. Il a dit « ma ferme attente », ce qui parle de foi, « ma ferme attente et mon espérance », puis il dit « persuadé de cela ». Encore une fois, le mot racine en grec pour la foi, « je suis persuadé, j'ai cette profonde confiance et cette croyance intérieure ». Il avait la foi, ces quatre choses. Il ne suffit pas d'appartenir à Jésus ou d'être dans sa volonté et que Dieu n'en ait pas fini avec vous. Ces trois choses sont importantes, mais elles ne suffisent pas. Vous devez également avoir une foi active. Je sais que certaines personnes ont consacré leur vie au Seigneur, mais sont mortes avant l'heure. Beaucoup sont décédés avant que leur saison de fécondité ne soit terminée parce qu'ils ont fait des choses stupides ou présomptueuses. Vous ne pouvez pas faire des choses stupides, tenter le Seigneur et vous attendre à être délivré. Dieu est miséricordieux, mais vous ne pouvez pas vivre ainsi. Je sais que certains aiment vraiment le Seigneur, mais nourrissent leur corps de déchets tout le temps. Mon ami, la sagesse est essentielle. Quoi qu'il m'arrive, je vais le bénir et rendre grâce, mais je vais aussi faire preuve de sagesse. Je ne vais pas manger n'importe quoi et me gaver de sucre, d'aliments malsains et de produits remplis de produits chimiques. Si c'est tout ce que j'ai à manger, je vais faire confiance à Dieu, mais je vais faire preuve de sagesse dans mon alimentation. Je sais que certaines personnes ont creusé leur tombe avec leurs propres dents. Elles mangent de manière malsaine, elles mangent trop, elles mangent au mauvais moment, et elles disent « Dieu va me délivrer et me donner une longue vie ». Pas si vous enfreignez les principes de la sagesse. Vous devez être une personne de foi et vous appuyer sur la parole. Vous devez lui appartenir, mais vous devez également faire preuve de sagesse. Aussi triste que cela puisse paraître, certains sont morts avant l'heure et n'ont pas accompli ce que Dieu leur avait demandé de faire, parce qu'ils ont été présomptueux, parce qu'ils ont tenté le Seigneur, parce qu'ils ont enfreint les principes de la sagesse, ou parce qu'ils ont négligé le temps qui leur était imparti dans le livre de Dieu. Après avoir entendu cela, quelqu'un pourrait demander, « Êtes-vous en train de dire que nous pouvons faire confiance à Dieu pour une vie longue et fructueuse ?» Oui, c'est ce que je dis. Pas indépendamment des facteurs que je viens de partager, selon lesquels vous devez lui appartenir pleinement. Oui, vous devez faire de votre mieux pour être dans sa volonté. Vous devez lui faire confiance. Ces facteurs doivent faire partie de l'équation. Mais oui, je dis que vous pouvez avoir une vie longue et fructueuse. Je ne pense pas que vous puissiez croire que Dieu vous accordera cela si vous vivez selon vos propres désirs, si vous ne vous souciez pas de la volonté de Dieu pour votre vie. Je me souviens qu'un jour, j'étais à un repas avec des gens que je connaissais assez bien. Nous avons commencé à parler de mission et de voyage missionnaire. Une dame assise là a dit, d'un ton désinvolte, « Quand j'étais petite, Dieu m'a appelé à être missionnaire, mais je ne voulais pas le faire et je ne l'ai jamais fait. » J'étais horrifié. C'était une dame chrétienne. Elle croit en Jésus-Christ, mais elle a totalement ignoré la volonté de Dieu et son plan pour sa vie. On ne peut pas être en dehors de la volonté de Dieu. Je suis appelé à être pasteur, je pense que je pourrais être un très bon avocat. Je le sais grâce à ma façon de penser, ma façon d'aborder les problèmes et ma façon d'analyser les choses. Aux États-Unis, nous avons ce que nous appelons un jury pendant les procès. Vous n'avez peut-être pas cela là où vous vivez, mais en tant que citoyen, nous sommes appelés à siéger. Nous pouvons être amenés à siéger dans un jury. J'ai été appelé à plusieurs reprises pour faire partie d'un jury. Je me souviens d'être assis là, d'écouter l'avocat défendre une affaire et de me dire « Vous faites un travail épouvantable pour votre client, mais pourquoi donc ? Pourquoi ne soulevez-vous pas tel point ? Pourquoi ne soulevez-vous pas tel autre ? Pourquoi n'avez-vous pas posé telle question ?» Je les ai vus perdre une affaire simplement parce qu'ils n'avaient pas réfléchi suffisamment. Un jour, tous les jurés ont été invités à rejoindre les avocats dans le bureau du juge après le verdict. Et l'avocat de la personne qui avait perdu le procès a demandé si nous avions des questions à lui poser. Je lui ai demandé « Pourquoi n'avez-vous pas soulevé tel ou tel point ?» Il s'est mis à bégayer, à balbutier et a répondu « Eh bien, il n'y avait même pas pensé. Je pense que je pourrais être un bon avocat. J'aimerais beaucoup être garde forestier. Cela ne me dérangerait pas de vivre dans une cabane dans les bois et de faire ce métier. Ça me plairait, car j'aime être en plein air. Mais Dieu ne m'a pas appelé à vivre dans une cabane dans les bois et à gérer des ressources forestières. Il ne m'a pas appelé à être avocat. Si je faisais ces choses, je serais en dehors de la volonté de Dieu, même si elle pouvait m'apporter de la joie et même si j'étais doué. Pour cela, il m'a appelé à être prédicateur. Si je veux vivre une vie longue et fructueuse, je dois être dans sa volonté. Je dois faire ce qu'il veut que je fasse. Dans le livre des psaumes, au psaume 91:16, il est écrit « Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ». Dieu vous promet de vous combler de longs jours. Je vous encourage à lire tout le psaume 91. Vous ne pouvez pas séparer cette dernière promesse du psaume de l'endroit où il est dit que nous devons lui faire confiance en utilisant sa vérité comme bouclier et cuirasse et où il est question d'habiter sous l'abri du Très-Haut et d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Il y a certains critères à remplir, mais il y a la promesse d'être comblé de longs jours. Paul n'est donc pas mort pendant son emprisonnement à Rome. Il a dit, « Nous nous reverrons. Je suis persuadé que cela va arriver. J'ai encore des fruits à porter parmi vous. » Il a été libéré de son emprisonnement à Rome. Quelqu'un se demande, n'a-t-il pas été décapité plus tard? Selon la tradition, oui, il a été martyrisé. Mais je vais vous montrer quelque chose. Je voudrais vous lire 2 Timothée 4, 6. 2 Timothée 4, 6. Paul écrit ici environ 7 ans après avoir écrit cette lettre aux Philippiens alors qu'il était prisonnier à Rome. Sept ans plus tard, au verset 6 de 2 Timothée 4, Paul dit « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. » C'est le même mot grec que Paul a utilisé en Philippiens lorsqu'il a dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Cela signifie lever l'ancre et mettre les voiles vers une autre destination. Paul a dit qu'il avait déjà ce désir 7 ans auparavant, mais il a dit « Je dois rester ici parce que Dieu veut que je porte plus de fruits. Je n'ai pas encore terminé ma course. » À présent, il dit « Le moment de mon départ approche. » Vous pouvez connaître le moment de votre départ. L'apôtre Pierre a dit « Je sais que je quitterai bientôt ce corps comme notre Seigneur me l'a fait connaître. » Dieu lui a montré le moment de son départ. Paul a dit, « Je suis prêt à lever l'ancre maintenant et à mettre les voiles pour le ciel. » Au verset 7 et 8, il a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat. » Le combat que nous devons mener est le combat de la foi. Il a dit, « J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Il faut effectivement avoir la foi pour terminer la course. Mais Paul dit, « J'ai terminé, je suis prêt à mettre les voiles. J'ai terminé ma course, j'ai fait tout ce que Dieu voulait que je fasse. Maintenant, je suis prêt à lever le camp et à partir vers un nouvel endroit, ma demeure céleste. » Je suis prêt à lever l'ancre et à mettre les voiles vers le ciel. J'ai terminé, je suis prêt à recevoir ma récompense. Quand vous avez terminé, qu'importe que Dieu vous enlève votre souffle ou qu'on vous coupe la tête en martyr quand vous avez terminé, qu'importe. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, il semble que les martyrs aient une place spéciale au paradis et une récompense spéciale au paradis. Peut-être lui ont-ils coupé la tête, comme le veut la tradition, mais ils ne l'ont fait qu'une fois qu'il avait terminé. Plus tôt, lorsqu'il était dans la prison romaine et qu'ils affûtaient la hache, Paul a dit, « Je vais rester. » Jésus est aux commandes. Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Paul n'est pas parti avant que le Seigneur en ait fini avec lui. Il est parti comme un arbre chargé de fruits et comme un coureur qui avait terminé sa course. Il poursuit au verset 27 de Philippiens 1 et dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. » Paul a dit que je vienne ou non, vous devez mener une vie droite. Certaines personnes, lorsqu'elles savent que le pasteur vient dîner chez elles, nettoie leur maison, cache certains magazines, règle la radio sur une station chrétienne et donne l'impression qu'elles écoutent tout le temps de la musique chrétienne et ne regardent pas ces magazines. Juste parce que le pasteur vient chez elles. Mais Jésus est avec vous tout le temps. Donc, que l'apôtre Paul vienne chez vous ou non, Jésus est toujours présent dans votre maison. Vous devez comprendre que son regard est sur vous, et vous devez vivre parce que le Seigneur vous observe. Paul a dit que je sois là ou que je ne sois pas là, tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour amener les autres à la foi et renforcer votre propre foi. Afin d'apporter l'Évangile aux autres et d'encourager les croyants dans la vérité de l'Évangile, tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur. L'esprit fait référence à votre motivation. La traduction du XXe siècle dit « Soyez animés par un seul esprit ». Quand il parle d'un seul esprit, il parle de votre objectif. La traduction de Williams dit « afin qu'avec un seul objectif, vous puissiez continuer à coopérer, animé par un seul esprit, et avec un seul objectif, vous continuez à coopérer ». Les gens peuvent avoir le même objectif, mais leurs motivations pour poursuivre cet objectif peuvent être différentes, même lorsqu'il s'agit de répandre l'Évangile. Nous avons découvert plus tôt en Philippiens 1 que Paul dit « les gens ont pris de l'assurance parce que je ne me suis pas laissé intimider. Je suis en prison, alors les gens ont pris de l'assurance pour prêcher l'Évangile, certains par amour, mais d'autres par rivalité. Certains veulent augmenter les souffrances de ma détention. » La version en grec dit « certaines personnes agissent comme si elles faisaient campagne pour un poste. Elles veulent obtenir des votes, être sous les feux de la rampe, gagner des adeptes et gagner de l'argent. » Elles prêchent le bon message, mais elles le font pour de mauvaises raisons. Paul a dit que notre objectif soit le même, à savoir proclamer l'Évangile, mais que notre motivation soit également la même. Alors que nous travaillons ensemble, et puisque vous soutenez ce que nous faisons, je sais que certains me regardent et prient pour ce que nous faisons. Cette émission est diffusée dans le monde entier. Je viens de lire aujourd'hui que nous sommes présents dans plus de 100 pays, mais que nous sommes présents dans 22 pays hispanophones. Il y a plus de 500 millions de locuteurs espagnols dans le monde. Nous faisons tout notre possible pour établir des partenariats avec eux et leur apporter l'Évangile. Il en va de même pour le monde germanophone, russophone, arabophone, persan, francophone, anglophone, et pour un grand nombre d'autres langues. Ceux d'entre vous qui prient pour ce que nous faisons y contribuent également. Nous sommes partenaires. Ceux d'entre vous qui donnent, nous sommes partenaires, et je vous en remercie. Ce que vous donnez finit dans les registres du ciel comme un fruit qui s'ajoute à votre compte. La multitude de locuteurs hispanophones, germanophones, russophones, francophones, népalophones et arabophones qui sont touchés par ces messages, tout cela est un fruit qui s'ajoute à votre compte. Alors un tout grand merci de votre participation. Nous comprenons que, même si nous sommes unis par un même objectif et une même motivation, d'autres agissent pour obtenir de la reconnaissance, une promotion ou un salaire. Mais ce n'est pas pour cela que nous le faisons. Ce n'est pas pour la reconnaissance. Ce n'est pas pour la promotion. Ce n'est pas pour le salaire. C'est par amour pour notre Seigneur qui nous a sauvés et purifiés. Par amour et par souci pour les autres qui passeront l'éternité quelque part. Ils passeront l'éternité au paradis ou ils passeront l'éternité en enfer. C'est l'une des façons dont Dieu les atteint à travers toutes les plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles nous sommes présents lorsque je vais prêcher dans différents pays, à la télévision, en transmettant ces messages aux gens. Encore une fois, je tiens simplement à vous remercier. Pour en revenir à notre sujet, Paul vient de leur dire « mourir représente un gain. M'en aller et être avec Christ est de beaucoup le meilleur. Si nous perdons notre peur de la mort, qu'est-ce qui peut encore nous intimider ? En continuant à défendre sans faiblir ce en quoi nous croyons, nous montrons à nos adversaires leur destruction et notre salut. » Comme le disent les derniers versets de ce chapitre au verset 28, « sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires, pour eux c'est une épreuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. Nous tenons ferme malgré les menaces, malgré les persécutions. » En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que, vous l'apprenez maintenant, je mène encore. La foi exige l'action. L'action, en plus d'apporter des résultats, entraîne la persécution. Les chrétiens militants, les chrétiens actifs, attirent les foudres du diable. C'est ce qu'a vécu Paul à Philippe. Il a été persécuté lorsqu'il a prêché l'Évangile à Philippe, et c'est ce qui lui arrive également à Rome. Mes frères et sœurs, vous risquez de subir la persécution. Je risque de subir la persécution, et peut-être encore plus dans la région où vous vous trouvez. dans la ville où vous vivez, dans votre environnement, dans le contexte religieux et l'atmosphère dans lesquelles vous vivez. Mais je veux vous encourager et vous fortifier. Même si vous êtes persécuté, n'abandonnez pas. Vous finirez par triompher. Le Seigneur est avec vous, il est avec vous ici et vous serez récompensé au ciel. L'apôtre Paul a dit, « Le Seigneur me récompensera, et non seulement moi, mais aussi tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Ce jour n'est pas encore arrivé. Mais un jour viendra où vous, moi, ceux qui ont aimé le Seigneur, ceux qui l'ont servi, ceux qui ont fait des sacrifices, prié, prêché, et ceux qui ont fait la volonté de Dieu dans leur vie, nous nous tiendrons devant le Seigneur ce jour-là. Cela n'est pas encore arrivé. Le Seigneur distribuera les récompenses, il dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur » à ceux qui ont été beaux et fidèles. Mon ami, je vous encourage, gardez la foi. Terminez votre course. N'abandonnez pas. Une récompense vous attend au ciel. Je vous aime, Dieu vous aime, que le Seigneur vous bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.
Chaque semaine, de nombreuses personnes nous contactent parce qu'elles ont été interpellées par les émissions, parce qu'elles ont des questions ou parce qu'elles souhaitent une prière. Nous en sommes très heureux. Pour pouvoir produire d'autres émissions, nous avons besoin de partenaires comme vous à nos côtés. Si vous aussi vous avez été encouragé par nos émissions, vous pourriez envisager de nous soutenir de manière ponctuelle ou régulière. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. Vous trouverez toutes les informations complémentaires et la possibilité de faire un don directement en ligne sur bayless-conley.fr/don.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.